Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre sur Radio Classique avec Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Ma première question, comme chaque lundi, cher Luc, c'est un sujet de philosophie qui pourrait tomber au bac. Oui. L'homme peut-il choisir le moment et les conditions de sa mort ?
Oui. Et en revanche, la question qui se pose, c'est la question de l'assistance. C'est pas la question du suicide, ce sont deux questions différentes. C'est la question de l'assistance qui fait problème. Personne n'empêche qui que ce soit de mettre fin à sa vie. Même si l'Église condamne le suicide, elle ne peut pas l'empêcher, elle ne peut pas l'interdire. Et donc, ce qui fait problème dans la loi actuelle, c'est l'assistance à la mort, l'assistance au suicide, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté. Hein, les deux sont différentes puisque le suicide assisté, on se suicide soi-même, même si on est assisté par un médecin. L'euthanasie, c'est un médecin qui vous trucide. Mais le problème de fond...
Le mot trucider est un peu fort.
Bah, il est quand même...
Il vous aide à mourir, voilà.
Oui, non, parce que si on parle de regarder la mort en face, il faut employer les mots qui sont les mots brutaux, qui sont les mots de la mort. La mort n'est pas belle, d'une certaine manière, surtout quand elle intervient en fin de parcours, et après des maladies souvent terribles.
Je me permets de vous interrompre, mais effectivement, il y a une sorte de contradiction dans la sortie d'Emmanuel Macron et le projet qu'il soutient. C'est-à-dire, si on regarde la mort en face, ben on la regarde dans les conditions normales.
Oui.
si on la regarde pas en face, on se fait assister. C'est un peu ça, c'est ce que vous sous-entendez.
Exactement, et donc ce qui fait problème, c'est l'assistance, c'est pas la mort... Enfin, si, la mort fait problème, mais pour d'autres raisons. Mais ce qui fait problème, c'est pas le suicide, c'est l'assistance au suicide. C'est le fait qu'on ait besoin d'une aide, et quand quelqu'un demande une aide, la question qu'on doit se poser, c'est quelle doit être la réponse à une demande qui est faite. Est-ce que c'est une réponse par la mort, ou est-ce que c'est une réponse par l'amour? C'est pas la même chose. Et c'est de cela que nous discutions dans notre livre avec Axel Kahn, et nous étions d'accord.
Le généticien,
le frère de Jean-François. Et donc, ce que me disait Axel, qui avait vu, évidemment, qui avait assisté à la mort de beaucoup de gens, puisqu'il était en plus cancérologue, bon. Et il me disait, mais là, dans 90% des cas, voire davantage, la demande de mort est une demande d'amour. Et quand on dit aux gens, dans les soins palliatifs, on va vous aider. D'abord, vous ne souffrirez pas parce qu'on a aujourd'hui les moyens d'éviter la souffrance. Dans 99% des cas, on peut y arriver. Mais surtout, on sera avec vous, on vous laissera pas tomber. Et dans ce cas-là, la demande de mort s'arrête. Parce que on comprend qu'il y a une réponse qui est celle de l'amitié ou de l'amour. Et très souvent, des gens qui veulent mourir, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'enfants qui viennent les voir ou que la famille les a laissés tomber. Voilà. Et donc, moi, ma position, elle, pour la donner sans tourner autour du pot, je pense que le problème, c'est le problème de l'irréversibilité. C'est ça, la grande question. La mort, c'est l'irréversibilité. La mort, c'est l'irréversibilité parce que c'est pas réparable. Si on n'est pas croyant, c'est l'irréparable par excellence. Et donc, la mort existe dans la vie, dans nos vies, il y a de l'irréversible. Un divorce, on est obligé de changer d'appartement, on sait qu'on passera plus les mêmes vacances avec ses enfants. C'est irréversible, c'est une petite mort, même s'il y a une vie qui va suivre. C'est une petite mort. Pour un enfant, la fin des vacances qui ont été formidables, où il y a eu des amis, où on a noué des relations formidables, la fin des vacances, c'est une petite mort, c'est l'irréversible. Et donc, moi, je suis pour l'euthanasie, ou même peut-être le suicide assisté, quand on est en fin de vie et que c'est absolument irréversible. Mais si on n'est pas en fin de vie, et j'ai eu cette discussion hier avec Danny Cohn-Bendit, lui, il voudrait, et dans toutes les législations qui ont autorisé le suicide assisté, pratiquement, le problème s'est posé, et on a fini par y aller. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que le suicide assisté soit autorisé pour les personnes qui ne sont pas malades, et pas en fin de vie, pas malade physiquement et pas en fin de vie, c'est-à-dire pour les grandes souffrances psychiques. Et c'est ce qui se passe.
Ça n'est pas ce que propose le président de la République.
Non, mais c'est ce qui se passe dans tous les pays où on a autorisé le suicide assisté, que ce soit au Québec, que ce soit en Suisse, en tout cas dans la plupart d'entre eux.
C'est-à-dire la dérive.
C'est-à-dire, c'est une pente glissante d'une certaine manière, parce que par exemple, en Suisse, il y a eu le cas que j'ai eu à regarder de près de deux jeunes schizophrènes, un frère et une sœur qui ont demandé à être l'assistance au suicide et qui l'ont obtenu, mais qui avaient une trentaine d'années.
Aucun problème de santé physique.
Physique, voilà. Et dans ce cas-là, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas irréversible. On peut aider des gens qui sont même dans une grande souffrance psychique, parce que la schizophrénie, ça peut être une souffrance épouvantable. Il y a des angoisses terribles. Voilà. Mais on peut aider. Voilà. Et tant qu'on peut aider, voilà. Moi, j'ai assisté. avec quelqu'un, un ami qui est mort d'un cancer du poumon. J'étais avec lui jusqu'à 48 heures avant sa mort. Et là, je suis absolument pour qu'on l'aide à mourir, parce que les médecins me disaient, mais il y a absolument rien à faire, c'est totalement irréversible. Il va souffrir pendant 48 heures, pendant 72 heures. Ça ne sert absolument à rien. Il pouvait plus respirer, il suffoquait, c'était atroce. Bon, là, évidemment que je suis pour l'euthanasie ou même le suicide assisté. C'était plutôt l'euthanasie.
C'est un peu ce que prévoit la loi Leonetti qui accompagne, qui place progressivement sous sédation, etc. Puis à un moment donné, on demande à la famille, est-ce qu'on arrête ?
Exactement, c'est pour ça que je pense que 90% en gros des Français sont pour qu'on modifie la loi, mais ils ne la connaissent pas. La loi Leonetti-Claeys, puisque en fait c'est Leonetti-Claeys, c'est ces deux députés qui ont fait cette loi. Moi, je connais bien Jean Leonetti, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, pour qui j'ai grande estime. Et cette loi, elle permet ce qu'on évoque là. Et donc, c'est pour ça que ma question, avant de me prononcer sur cette loi, est-ce que je la voterai ou pas si j'étais député, c'est de voir jusqu'où elle ira, jusqu'où elle va modifier la loi Leonetti. Parce que la loi Leonetti, elle est contre l'acharnement thérapeutique, et donc elle permet les sédations létales en fin de parcours. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter à cette loi ? C'est ça la question pour moi.
Luc Ferry, Guillaume Tabar disait, on est dans une séquence où vendredi, on scellait le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, et le lundi, le président donne enfin son avis sur ce dossier de la fin de vie. Comment vous interprétez cette séquence, vous, pas sur le week-end ou pas sur les trois derniers jours, mais sur le fait que la question individuelle ou de l'individualisme se soit imposée sur des questions qui, pour certains, engagent toute la société, la vie en société, la philosophie, le sens de la vie?
Mais je crois que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et que par conséquent on est très embarrassé pour les grandes réformes politiques et sociales, quand on peut plus faire du social et du politique et du social, alors on se rabat sur le sociétal consensuel. Et là, on est typiquement, que ce soit sur l'IVG ou que ce soit sur l'euthanasie, on n'est pas dans le social ni dans le politique, on est dans le sociétal et en plus consensuel. Donc au fond, Emmanuel Macron ne risque absolument rien. Donc il va encore faire des grands discours, ce qu'il adore, et il va être montré qu'il est capable de faire des grandes réformes, mais qui ne sont pas des réformes politiques ni des réformes sociales, qui sont des réformes purement sociétales, et donc qui sont, comme elles sont très très consensuelles, de LFI à Marine Le Pen, personne ne conteste la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Donc,
pardon,
je rappelle...
Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que sur des sujets aussi sensibles, on en soit arrivé à ce consensus-là, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans ? Il y a une explication du philosophe et de celui qui observe la société française. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais c'est l'individualisme moderne, ce qui est pas l'égoïsme. L'individualisme, c'est pas l'égoïsme. L'individualisme, c'est la révolte. Au fond, ça commence déjà avec Descartes, si on veut. La révolte de Descartes contre tout ce qui est le préjugé qui est imposé de manière autoritaire à l'individu. Et donc, on a, au fond, un monde démocratique qui, depuis la naissance de la démocratie, je dirais même depuis la naissance de la philosophie de Descartes, donc cette révolte contre les préjugés, avec les Lumières, va conduire l'individu moderne, l'homo democraticus, à se révolter contre tout ce qui est imposé autoritairement de l'extérieur, donc tout ce qui est religieux en particulier. Et donc là, les réformes que vous évoquez sont des réformes qui sont absolument condamnées par l'Église. Que ce soit le mariage gay, que ce soit l'IVG, que ce soit l'euthanasie, l'Église est à fond contre. Il faut quand même le rappeler aux catholiques. Ils oublient parce que maintenant les catholiques connaissent peu leur propre théologie. Mais l'Église est à fond hostile au mariage gay, à fond hostile à l'euthanasie, à fond hostile à l'IVG. Ça reste même, c'est même considéré dans la doctrine de l'Église comme des péchés mortels. C'est pas des péchés véniels. Bon, et donc on a depuis au fond cette espèce de cartésianisme qui met en place la révolte de l'individu contre ce qu'on appelle l'hétéronomie, c'est-à-dire ce qui s'impose à vous de l'extérieur, on a un individu qui veut être absolument libre de toutes les décisions qui le concernent, que ce soit, et les femmes disent par exemple, on est libre, la libre disposition de notre corps, comme si le fœtus était un morceau de leur corps, ce qui est pas vrai d'une certaine manière, parce que c'est pas leur corps, c'est pas un cancer, c'est pas un parasite, l'Église est folle de rage contre cette formule, parce qu'elle dit c'est une personne humaine potentielle, c'est pas simplement un kyste.
Mais c'est la femme qui le porte.
Mais c'est la femme qui le porte, évidemment. Donc, d'où ce débat de l'individu qui veut pouvoir tout décider par lui-même de ce qui le concerne lui. Donc, que ce soit sa mort, que ce soit son avortement, etc. Et donc, c'est tout à fait logique que la religion, qui est par définition hétéronomie, puisque la loi vient de Dieu et pas des hommes, se trouve contestée par cet individualisme démocratique, qui n'est pas l'égoïsme, encore une fois, c'est beaucoup plus profond. C'est la révolte contre l'hétéronomie, contre les traditions, et donc contre ce qu'il peut y avoir de traditionnel et d'hétéronome dans les religions. C'est très profond, hein, ça. Et c'est pas du tout étonnant que ces lois modernes, au fond, soient des lois anti-religieuses. Elles sont autonomes contre l'hétéronomie. C'est ça qu'on vit aujourd'hui, et c'est de plus en plus fort, donc c'est normal que ça soit très consensuel, en fait. Encore une fois, de la LFI à Marine Le Pen, tout le monde est pour la loi Veil, qui, je le rappelle, est une loi qui a été édictée par la droite. Donc, ça ne servait strictement à rien de la mettre dans la Constitution. Il n'y a aucun risque en France. Il y en a aux États-Unis, mais pas du tout en France.
Vous vous rendez compte, Luc, on avait prévu 4 sujets, on n'en a traité qu'un seul.
Eh ben, c'est la vie philosophique.
Luc, il y a 20 ans. On va se séparer avec un extrait de Rigoletto.
Ah bon?
Alors, j'allais parler de votre loi, mais on n'a plus le temps. La loi sur la laïcité l'interdiction des signes religieux à l'école, mais on le fera la semaine prochaine.
Si vous voulez.
On va se séparer avec un extrait de Rigoletto de Verdi. Oui, tant qu'à faire.
C'est la première aujourd'hui.
La première à Venise a eu lieu un 11 mars 1851. Et voici sans doute l'air le plus fameux de Rigoletto, la Donna è mobile.
Pensiero